Frères et sœurs et chers amis, je me réjouis d'être encore une fois parmi vous, hier déjà et encore une fois aujourd'hui. Et aussi je me réjouis de ce que nous pouvons lire ensemble la parole de Dieu, une portion de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole, c'est la parole de vie, nous le savons. Et je pense que nous qui sommes ensemble ici pour lire la parole ensemble, nous avons tous aussi un vrai amour pour la parole de Dieu. Un amour pour notre Seigneur, auquel nous nous sommes aussi recommandés tout à l'heure, mais un amour aussi pour sa parole, parce qu'il nous parle, parce qu'il nous aime. Et je pense lire un passage dans le deuxième livre des Chroniques. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32, à partir du premier verset. Après ces choses et cette fidélité, Sanchérib, roi d'Assyrie, vint et entra en Judée et campa contre les villes fortes, et il pensait en forcer l'entrée. Et quand Ézéchias vit que Sanchérib venait et qu'il se dirigeait contre Jérusalem pour lui faire la guerre, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes forts pour arrêter les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville. Et ils lui aidèrent. Et un grand peuple se rassembla et ils bouchèrent toutes les les sources et les torrents qui débordaient, disant « Pourquoi les rois d'Assyrie viendraient-ils et trouvaient-ils des eaux abondantes ?» Et ils s'encouragea, et bâtit toute la muraille, et il y avait des brèches, et les lèvent jusqu'au tour et bâtit une autre muraille en dehors. Il fortifia Milo dans la ville de David et fit beaucoup de javelines et des boucliers. Et il établit des chefs de guerre et le peuple et il les rassembla auprès de lui sur la place de la porte de la ville et parla à leur cœur, disant « Fortifiez-vous et soyez fermes, ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et à cause de toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos combats. » Et le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Nous lisons d'abord ce court paragraphe. Nous avons bien compris qu'il s'agit du roi d'Ézéchias. La parole de Dieu nous parle beaucoup de ce roi, il y a plusieurs chapitres, et ce n'est pas seulement dans les livres historiques, comme on pourrait les appeler, le livre des rois et aussi des chroniques dont nous avons lu quelque chose, mais même dans le livre d'Ésaïe, du prophète, il est aussi parlé d'Ézéchias. Pourquoi ? Parce que Dieu souligne, pour ainsi dire, « Voilà un homme qui me plaît. Voilà un homme qui était, je dirais, de mon côté. » Le premier verset nous dit déjà quelque chose. D'abord, après ces choses. Nous n'avons pas lu ces choses, on va encore regarder ici ou là un peu, mais il me semble qu'il y a eu un mot qui est important, et cette fidélité. Après cette fidélité. La fidélité, c'est un trait de caractère. Qu'est-ce que c'est la fidélité ? Nous aimons tous être des fidèles. On dit aussi, d'une part, des fidèles. Les fidèles, ce sont premièrement, tout simplement, des hommes qui croient, des croyants, ce sont des fidèles. Le mot original a justement aussi ce sens-là, les fidèles. Mais les fidèles, c'est encore davantage, c'est beaucoup plus encore que d'être croyant. Un croyant, celui qui croit au Seigneur Jésus, un croyant qui croit en Dieu, un croyant chrétien, je dirais, un frère, une sœur, des croyants, de quoi sont-ils caractérisés? La fidélité, qu'est-ce que c'est donc? Premièrement, certainement, d'être obéissant dans les choses que Dieu demande. Être obéissant, oui. Être pour Dieu. Rechercher la pensée de Dieu. Chercher à comprendre la pensée de Dieu. Être ferme dans ce que l'on a compris. Quand on a compris, aussi de le faire, et de le faire vraiment, même quand il y a des difficultés, même que quand cela porte peut-être une situation difficile. Nous connaissons des croyants qui sont appelés vraiment des fidèles. Pensons à ceux qui, dans des temps où les chrétiens sont persécutés, ou des pays où les chrétiens sont persécutés, ils restent fidèles parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils, et maintenant je viens encore ajouter quelque chose, parce qu'ils ont aussi toute confiance en Dieu. C'est là, donc la confiance, c'est l'obéissance, voilà la fidélité, mais c'est aussi ces sentiments de dépendance de Dieu. Tout cela ensemble, ça, c'est la fidélité. Quand nous parlons, nous voulons être fidèles, pensons aussi à ces différents traits de caractère qui sont nécessaires. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fidèles, déjà autrefois aussi, ils ne pouvaient pas dire que quelqu'un était fidèle quand il n'était pas obéissant. Il était croyant peut-être, il disait quelque chose, il professait quelque chose, mais est-ce que c'était vrai? Voilà, vraiment un fidèle, c'est quelqu'un qui se tient à ce qu'il a compris, qui se tient à ce que son Sauveur, son Seigneur lui dit. Et je trouve que c'est très important déjà et très beau de voir que Ézéchias, il est dit sa fidélité. Et on pourrait peut-être rechercher le mot fidélité dans l'Ancien Testament, on ne le trouve pas très souvent. Et c'est quelque chose qui souligne alors un trait de caractère de cet homme, et c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas nous qui le disons, nous pouvons peut-être penser de quelqu'un qui est fidèle, qu'il est fidèle dans le sens profond. Dieu, si Dieu le dit, quand Dieu le dit, cela a vraiment de la valeur. Mais regardons peut-être quelques détails seulement qui concernent la fidélité de cet homme. Je pense à quelques passages dans le chapitre 29, par exemple, parce que cela, son histoire commence, et je regarde justement le verset 20, dans le chapitre 29. « Et le roi Ézéchias se leva de bonne heure et assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Et ils amenèrent sept taureaux et sept béliers et sept agneaux et sept boucs en sacrifice pour le péché, pour le royaume et pour le sanctuaire et pour Juda. » Jusque-là d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il y avait un état dans le peuple, un état dans le royaume, un état parmi aussi malheureusement des sacrificateurs, un état qui était mauvais. un état de... Quel était le sacrifice qu'il a voulu apporter? Sacrifice pour le péché. Il voyait. Il y a un état dans le peuple et dans le royaume. Le royaume était souillé par le péché, par ses prédécesseurs, aussi sous ses prédécesseurs. Il y avait le péché, il voyait ça. Il voyait aussi très bien parce qu'il était vraiment quelqu'un qui regardait, quelqu'un qui aimait la parole et qui comprenait, ça ne peut pas plaire à mon Dieu. Alors, il est absolument nécessaire qu'il y aura un sacrifice pour le péché. Et il est dit encore davantage au verset 22, ils égorgèrent des bœufs et des sacrificateurs sur le sang et il en fit aspersion sur l'autel. Et ils égorgèrent les béliers et firent aspersion du sang sur l'autel. Ils égorgèrent des agneaux et firent aspersion de sang sur l'autel. Ils firent approcher les boucs du sacrifice pour le péché, devant le roi et la congrégation. Ah, c'était bien aussi, et la congrégation, c'est-à-dire les autres aussi. Il les comprenait aussi. Ce n'est pas seulement lui qui faisait faire ça, mais c'était aussi pour la congrégation, pour tous ceux qui étaient présents. Devant le roi et la congrégation, ils posèrent leurs mains sur eux et les sacrificateurs les égorgèrent firent avec leur sang et sur l'autel la purification du péché afin de faire propitiation pour tout Israël. Alors en quoi consiste cette fidélité d'abord? Confession. Le regard sur l'état qu'on a, dans lequel on est, sur les faits, sur les actions, et puis les juger devant la sainteté de l'Éternel et apporter vraiment ces sacrifices pour le péché. Chers amis, aujourd'hui nous n'avons pas un sacrifice pour le péché à apporter. Nous savons bien que le Seigneur Jésus est devenu aussi pour nous le sacrifice pour le péché. C'est que lui, il a porté nos péchés, que nos péchés sont pardonnés, oui, c'est vrai. Mais alors, nous avons aussi besoin de chaque jour d'apporter, quand il y a quelque chose dans notre vie, dans nos actions, aussi dans nos pensées et dans nos paroles, qui ne peut pas plaire à l'Éternel, ne peut pas plaire au Seigneur Jésus. Le jugement de nous-mêmes, voilà. Et cela nous rappelle que le péché est toujours encore en nous et que nous pouvons encore commettre des péchés. Et voilà, nous avons besoin de nous approcher du Seigneur Jésus aussi. Nous avons le droit de nous approcher de lui par la confession pour lui dire, voilà Seigneur, ce qui était dans ma vie, voilà, tu sais ce que j'ai pensé, tu sais ce que j'ai voulu faire, même ce que j'ai voulu faire, n'est-ce pas? Peut-être que je n'ai pas fait, mais que j'ai voulu faire. Attention, déjà je peux et je dois le confesser devant mon Seigneur. Et quand je le fais vraiment devant lui, qu'est-ce qu'il nous donne? Le pardon et la purification. Il nous purifiera. Voilà la première chose de la fidélité que nous pouvons voir. Je prends encore un autre verset, au verset 27. Et Ézéchias dit d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, le cantique de l'Éternel commença. Je lis jusque-là. Voilà. C'est ce qui était aussi dans le cœur d'Ézéchias. Il faut apporter maintenant quelque chose à l'Éternel. L'holocauste, image de l'adoration, bien sûr, nous comprenons. Mais ce qui précède, c'était le sacrifice pour le péché, et ce que nous trouvons maintenant, c'est encore l'adoration. D'ailleurs, ces deux sont absolument liés dans ce sens-là. D'abord, jugement de nous-mêmes, confession, et alors, pardon, purification, étant pur, étant sanctifié, étant vraiment comme ça, devant Dieu, l'Holocauste. Là, nous pouvons vraiment penser à ce qu'il a fait, à cette profondeur de l'offrande, du sacrifice du Seigneur Jésus. Et nous voyons ces quelques principes aussi dans la vie d'Ézéchias, et qui sont, pour ainsi dire, aussi une sorte de condition pour avoir la force de la foi qui se montre après dans sa vie. Nous allons peut-être, pour ne pas trop prolonger, je pense encore à ce verset 20 du chapitre 31. C'est Dieu qui tire une conclusion en écrivant: « Et Ézéchias fit ainsi dans tout Juda, et il fit ce qui est bon et droit et vrai devant l'Éternel son Dieu. Et dans toute œuvre qu'il entreprit, dans le service de la maison de Dieu, et dans la loi, et dans les commandements pour rechercher son Dieu, il agit de tout son cœur et prospéra. » Vous voyez la fidélité? Dans de tout son cœur, obéissant aux commandements, aux pensées de Dieu, de les comprendre et de les faire. Voilà, c'est la situation dans laquelle nous avons où est mis notre paragraphe que nous venons de lire au début. Quand nous voulons être bénis, nous recherchons la bénédiction, nous recherchons une vie de joie avec le Seigneur, nous recherchons la communion avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Nous recherchons l'action du Saint-Esprit dans notre vie, non seulement dans le rassemblement, non seulement dans les heures de réunion, mais l'Esprit de Dieu veut et doit nous conduire absolument aussi dans notre vie personnelle, parce que c'est là que cela commence. Dans ma vie personnelle, est-ce que vraiment je suis soumis à l'action du Saint-Esprit? Quand je suis soumis à mon Seigneur, quand je commence toutes les journées avec la prière, aide-moi Seigneur, vraiment à te suivre tout près et à être obéissant à ta parole, et accorde-moi de connaître et de comprendre ce que tu veux me dire. Alors là, le Saint-Esprit est actif. Ah, condition, j'ai dit. Il y a quand même une condition. Je ne peux pas parler comme cela à mon Seigneur le matin quand il y a quelque chose sur mon cœur qui n'est pas en ordre, qui n'est pas réglé. Quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé, réfléchissons. Est-ce qu'il y a quelque chose? Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne peut pas te plaire, montre-le-moi et donne-moi aussi d'être prêt à le confesser devant toi et aussi à le mettre de côté, et si nécessaire, ça peut être le cas aussi, de confesser quelque chose devant le Seigneur, devant le Seigneur, c'est clair, mais souvent aussi, nous avons aussi affaire avec quelqu'un de mes frères et sœurs, et même peut-être avec quelqu'un du monde, où j'ai fait mal, où j'ai agi non pas comme il faut. Alors là, il faut le confesser également devant ces personnes-là. Quand il y a, nous connaissons ça, le Seigneur a dit ça, avant que tu apportes ton don devant l'autel, alors règle les choses avant, en allant là, que tu te souviens qu'il y a quelque chose encore, que tu avais encore une chose à régler avec ton frère, avec cette sœur, avec laquelle on avait peut-être parlé durement, et peut-être même plus que ça. Il y a une mésentente, il y a peut-être une, toutes sortes de choses. Je ne vais pas les mentionner, toutes les choses qui peuvent être, qui sont possibles. Mais alors, il faut confesser. Et quand il y a là, comme ça, la purification par le pardon que le Seigneur donne, à ce moment-là, alors, je suis libre aussi et l'Esprit de Dieu peut agir. Sinon, il doit faire autre chose. Il ne peut pas me conduire quand il a encore affaire dans ma conscience, quand il doit encore me montrer combien j'ai été fautif, combien qu'il y a encore un péché sur mon chemin. Donc, et chers amis, ça c'est, je vois quelquefois, il y a une querelle, non pas ouverte, mais une certaine querelle entre tel frère et tel frère. Pourquoi ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est absolument clair ? C'est normal ? Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Alors là, qu'est-ce que je dois faire ? Jugement de moi-même. Et ensuite, confession devant le Seigneur. Et ensuite, aller vers mon frère. Pour confesser devant lui. Et vous allez certainement remarquer que l'Esprit de Dieu peut agir aussi dans le cœur et la conscience de l'autre frère. Faisons le premier pas. Faisons cela. Quand nous comprenons qu'il y a quelque chose, faisons le pas. Et ne disons pas, ah, il peut venir. Oui, parce que je trouve que l'autre a davantage péché contre moi que moi contre lui. Et ce que j'ai fait, moi, c'était seulement une réponse à cause de son attitude à lui. Nous le comprenons, ça nous arrive si facilement. Jugeons-nous nous-mêmes et puis disons les choses devant notre Seigneur et aussi devant les uns devant les autres. Voilà ce que nous enseigne aussi cette attitude, c'est ce que Dieu dit de cet homme Ézéchias dont il dit vraiment quelque chose de très beau. Donc il avait vraiment recherché Dieu avec son cœur, de tout son cœur. Il agit de tout son cœur. Et maintenant, c'est la réponse du Seigneur, c'est la réponse de Dieu, la réponse du Saint-Esprit aussi, de ce qui, oui, il est Dieu, et il prospérera. C'est-à-dire, Dieu donne sa bénédiction. Pour le roi, ça devient visible, aussi dans son règne, ça devient visible, ils ont fêté encore une grande fête, tout ça, je ne veux pas en parler encore. Ça serait trop, mais nous connaissons un peu cette histoire qui est vraiment une histoire très belle d'un croyant qui recherche de tout son cœur l'Éternel, son Dieu. Nous recherchons de tout notre cœur le Seigneur, notre Dieu. Oui. Voilà, nous venons maintenant à ce petit paragraphe que nous avons lu. Il y a donc ici un ennemi qui arrive, un ennemi très fort. Dans l'histoire, nous savons que cet ennemi, ce roi des Syries, il était déjà venu pour ravager le nord du pays, c'est-à-dire le royaume des 10 tribus. Vous savez qu'il y a ces deux parties d'Israël, alors le royaume des 10 tribus, appelé en général Israël tout simplement, et le royaume des 2 tribus, Judas, appelé Judas. Voilà, déjà les 10 tribus étaient ravagées et même pris et conduits loin du pays. Je ne sais pas comment dire. Transporter loin du pays. Aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont, mais Dieu le sait. Et le Seigneur va encore leur parler pour les ramener, les descendants de ces 10 tribus. Mais ici, on comprend que pour Judas, pour le roi de Juda, Ézéchias, c'était un grand danger qui était arrivé. Et nous avons d'autres passages qui nous parlent de tout ce que ce roi croit pouvoir faire. Il a parlé non seulement que contre Juda et contre Ézéchias, le roi de Juda, mais il a parlé directement contre Dieu, en disant « Ha, ha, les autres pays qui avaient aussi des dieux, ces dieux n'ont pas protégé les peuples. Alors ces dieux-là, je les ai renversés. Ils n'ont pas pu protéger leur peuple. Et votre Dieu, il pourra ? Il ne pourra pas. Ce sera la même chose. Je vais ravager aussi votre pays. Et attention, alors je peux même tuer beaucoup, etc. » C'est ainsi qu'il a parlé. Alors il a parlé directement contre Dieu. Ézéchias, il est vraiment dans une situation très grave, très difficile, mais il a la confiance. Nous n'avons pas lu quelque chose qui se trouve deux fois aussi dans l'Écriture, c'est-à-dire comment il a agi premièrement. Quand ce roi Sanchérib est arrivé, il y a aussi son envoyé, le Rabsaké, qui a aussi crié contre eux. Il y a encore une lettre qu'ils ont écrite contre Judas et contre le Dieu, contre l'Éternel. Alors que fait Ézéchias ? Il reçoit ça. Il est très triste, inquiet, on comprend, mais il fait une chose qui est tout à fait juste et bon. Il va dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il met la lettre, cette lettre devant le Seigneur. Et il parle de ce qui est là-dedans. « Oh non, mon Dieu, tu sais, tu vois tout ce que le roi Sanchérib a écrit. Et comment il a parlé contre toi ?» Il y a donc un vrai appel de cœur de ce fidèle serviteur du Seigneur. Et le Seigneur répond. On pourrait juste lire deux, trois versets. J'aimerais bien le faire. C'est ce que nous trouvons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 19. D'abord, 2 Rois 19, premier verset. « Et il arriva, quand le roi d'Ézéchias eut entendu ces choses, qu'il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, qui était un préposé sur la maison, etc. » Et puis, au verset 4, non, avant encore. Ainsi dit Ézéchias au verset 3. Ce jour est un jour de détresse et de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'à la naissance et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles du Rabsaké et que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour outrager le Dieu vivant. Et punira-t-il les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues ? Fais donc monter une prière pour le résidu qui se trouve encore. » Voilà ce qu'il a écrit, qu'il fait dire à Isaïe le prophète. Et puis après, verset 14, « Et Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut et monta dans la maison de l'Éternel. » Et Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Et Ézéchias pria l'Éternel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins, toi, le même, toi seul, tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Toi, tu as fait les cieux et la terre, Éternel. Incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et vois, et écoute les paroles de Sanchérib qu'il a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, l'Éternel, les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leur pays, etc. Comme ça, il présente tout à l'Éternel, tout ce qui est dans son cœur. Et c'est ce que, dans un danger que, dans lequel nous pouvons être, nous pouvons également faire. Vraiment, étaler devant notre Dieu tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui, de quoi nous avons peur et ce que nous craignons qui peut arriver. La réponse, je ne vais pas lire la réponse. La réponse est très longue, mais Dieu répond. Répond par des mots, ce roi-là, je suis au-dessus. Ce roi-là, il peut faire ce qu'il veut, je suis au-dessus. Je ferai, j'agirai. Je ne vais pas lire tout ça. Mais au chapitre 32, nous trouvons quelque chose que nous ne trouvons pas dans les autres passages, ni dans le livre des rois, ni dans le livre d'Ésaïe. Et justement, ce qu'il fait encore. Et quand Ézéchias vit que Sanchérib venait et qu'il se dirigeait contre Jérusalem pour lui faire la guerre, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes forts. Jusque-là d'abord. Alors, il a parlé à Dieu, oui. Ce n'est pas marqué ici, pas répété ici, mais c'était clair. Un homme comme lui, il vit avec Dieu, il vit avec la prière, c'est clair. Ça, pour ceux qui ont écrit le livre des chroniques, ils ont énuméré ce qui est fait maintenant, comment maintenant ce roi agit lui-même. Ce que Dieu fait, ça vient après. Alors, il a parlé d'abord à ses chefs. Mais ces chefs, quels étaient les chefs? Là, on peut voir le chapitre avant, on voit quelques personnes qui sont des chefs. Ce sont ceux qui comprennent aussi la parole de Dieu, qui comprennent aussi ce que Dieu attend. C'est avec eux qu'il avait travaillé. Il leur avait dit quelque chose, ce qu'il faut faire pour les Lévites, pour les sacrificateurs. Alors pour eux, c'était clair. C'était donc des hommes, on dirait aujourd'hui, des hommes pieux, des personnes vraiment pieuses. Et c'est avec des personnes, avec des hommes pieux, qu'il peut parler maintenant et tenir conseil. Chers amis, voilà encore quelque chose que nous devons apprendre. Souvent, nous avons besoin aussi du secours fraternel. J'espère que je m'explique bien. Le secours fraternel. Est-ce que je peux parler à un autre frère? Est-ce que je peux parler à un autre frère parce que je sais que c'est un homme pieux, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui veut aussi être obéissant, et on peut se parler. Vous savez, c'est quelque chose de très précieux. Quand on a dans un rassemblement local un frère, deux frères, trois frères avec lesquels on peut vraiment, vous comprenez, non pas discuter, non, c'est pas discuter, mais avec lesquels on peut s'entendre sur la pensée de Dieu. On dit ce qu'on a compris de la parole de Dieu. L'autre peut encore ajouter quelque chose. Et alors encore, peut dire oui, mais alors encore. Je connais encore ce passage-là. Et voilà, Là, nous trouvons une réponse. Et peut-être un troisième dit. Et encore ça, ces entretiens aussi entre ceux qui sont des hommes pieux et très utiles, et Dieu le souligne ici, l'écrit maintenant. Dieu n'écrit pas, il a parlé à d'autres, il aurait dû me parler. Oui, il l'a fait, il avait parlé à Dieu, il avait présenté à Dieu ses soucis et ses craintes. Mais maintenant, Dieu lui montre, tu peux parler encore avec tes frères, avec ceux qui cherchent aussi le bien de l'assemblée, le bien de l'assemblée, le bien de tous les frères et sœurs. Voilà quelque chose que nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament. Ensuite, et pour arrêter les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville, et ils lui aidèrent. Et un grand peuple se rassembla et ils bouchèrent toutes les sources et le torrent qui débordait, disant, pourquoi les rois d'Assyrie viendraient-ils et trouveraient-ils des eaux abondantes ? Voilà, nous n'allons pas laisser des avantages à l'ennemi. C'est une première pensée, mais il me semble qu'il y a encore une deuxième pensée qui est cachée derrière. Parce que la ville Jérusalem se trouve sur une montagne, se trouve en haut. Il fallait que l'eau entre dans la ville. Ces eaux-là entrent dans la ville. Pour le peuple, ils avaient besoin bien sûr de l'eau. Mais ces eaux-là étaient à l'approche de l'ennemi. Vous me comprenez quand je dis ça? L'ennemi pouvait s'approcher de ces eaux-là et non seulement employer ces eaux, mais aussi les employer contre Jérusalem, contre le roi, contre la population de Jérusalem, en souillant cette eau, en polluant cette eau, en faisant tant que le peuple à l'intérieur souffre de soif, n'aura pas l'eau dont le peuple a besoin. Alors là, c'est un danger qui était là. Heureusement, il y avait un étang en haut déjà avec de l'eau. Alors le roi savait bien, pour un temps, la population aura encore de l'eau. Mais quand ça dure très longtemps, l'eau d'en bas viendra chez nous. Et voilà des eaux qui pouvaient être polluées. Attention, nous savons bien que l'eau est aussi, et aussi cette eau-là, est une image de la parole de Dieu. Alors on peut aussi fausser ce qui est vrai. Les hommes sont très habiles de fausser, d'ajouter des choses, d'enlever des choses. La parole est claire. Dans l'Ancien Testament, comme aussi dans le Nouveau Testament, nous connaissons bien ce passage. Tout à fait à la fin de l'Écriture, encore, nous trouvons celui qui ôte quelque chose. Est-ce que c'est dire ôter ? Chapitre 22 de l'Apocalypse. Dans les tout derniers versets. Mais je rends témoignage que à quiconque entend les choses de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part à l'arbre de vie, etc. Donc c'est un jugement, c'est une malédiction que Dieu donne, exprime contre ceux qui ajoutent quelque chose à la parole de Dieu ou qui ôtent quelque chose à la parole de Dieu. Et vous comprenez, c'est ce que je voulais dire par ces eaux qui étaient bouchées. Alors ça ne devait pas arriver que quelque chose soit faussé. Vous comprenez quand je dis faussé dans la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose d'important, ils avaient tous compris. que c'était nécessaire pour protéger la population de Jérusalem. Et ils étaient aussi d'accord à aider en tout cela. Et il s'encouragea et bâtit toute la muraille où il y avait des brèches. Et ça nous a occupé. Déjà aussi plus tard, c'était nécessaire dans le livre de Néhémie, c'est bien sûr beaucoup plus tard, mais là déjà il y avait déjà des brèches. Et alors, là aussi, ils ont compris, ça ne peut pas rester comme ça, il faut réparer les brèches. Et la muraille, il faut que la muraille soit vraiment intacte. La muraille, peut-être encore une pensée que j'aimerais tout simplement souligner, nous a occupé hier déjà. La muraille, c'est, comme on dit justement, la muraille de la séparation. N'ayons pas peur de cette expression, muraille de la séparation. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce qu'il faut absolument faire la différence, séparer entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, entre le mal et le bien. Et encore, ça c'est clair pour nous, et encore, ce n'était pas seulement le côté de se séparer de quelqu'un, mais c'est aussi le côté de se protéger. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut absolument que son peuple soit protégé du mal. Et donc, la muraille de la séparation, c'est une protection. Et c'est aussi, encore en plus, c'est encore une image du fait que il entoure par une muraille ceux qui sont à lui, qui lui appartiennent, qui appartiennent au Seigneur. Un peuple, comment dire, je ne sais pas, en français, c'est une expression qui est un peu différente. En Tite, nous avons ça, un peuple acquis. Il est parlé un peuple acquis. En Tite 2, oui, peut-être juste ce passage. Tite 2, au verset 14. Notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple acquis. Nous, dans notre langue, nous avons une autre expression là. Ein Eigentumsvolk. Un peuple qui lui appartient. Un peuple qui lui appartient, qui est sa propriété. Mais c'est exactement ça. Acquis, ça veut dire, j'en suis convaincu, que c'était aussi parce que maintenant, ce peuple a été acquis pour appartenir seulement au Seigneur. Et voilà, encore ici, quand nous pensons à cette muraille, à l'intérieur, il y avait un peuple qui était là pour lui. Et c'est très beau de voir que la muraille de la séparation indique aussi ce fait que ceux qui sont dedans sont un peuple acquis, qui appartient au Seigneur, qui appartient à Dieu aussi là. Et Dieu veut être sanctifié dans son peuple. Et c'est pour cela que le peuple doit être protégé. Et protégé extérieurement, parlant dans l'Ancien Testament, par une muraille. Bon, la muraille et les brèches devaient être réparées. Il continue encore et il va jusqu'aux tours. Il y a des tours. Les tours, ce sont dans la muraille, il y avait de temps en temps une tour. Et la tour, pourquoi est-ce qu'elle est bonne et importante? La tour est bonne et importante parce qu'elle est plus élevée et parce qu'on a une vue. Nous trouvons cela aussi dans d'autres passages de l'Écriture, que depuis la tour, je vais me mettre sur une tour pour regarder, pour voir plus loin et pour pouvoir avertir afin que l'ennemi ne peut pas s'approcher. Vous me comprenez? Voilà, ça, c'est important aussi. Ensuite, il est parlé du Milo. Le Milo, c'est un rempart. C'est une sorte de citadelle. Devant la ville de David, c'est une partie de la ville de David, de Sion. Et fit beaucoup de javelines et de boucliers. Voilà encore quelque chose qu'il fait pour protéger, pour défendre. Javelines, ce sont des... je ne sais pas, le mot est très connu ou non, et je ne sais pas. Je connaissais plutôt le mot javelot, je crois, hein, ça existe encore, oui. Oui. Mais c'est pour la défense et aussi pour l'attaque, contre. Hein, une attaque pour se défendre. Et les boucliers, c'est bien sûr, c'est une arme pour se protéger. Et il établit des chefs de guerre sur le peuple. C'est un peu ce que nous avons trouvé déjà hier en Néhémie, que là aussi il y avait dans justement aussi des personnes qui avaient une responsabilité spéciale. Et aussi il y avait cet homme qui devait avoir la trompette pour sonner quand il y a un danger, quand il fallait se rassembler pour se défendre. Et ensuite nous trouvons, c'est toujours Ézéchias, il les rassembla auprès de lui pour la place, sur la place de la porte de la ville. La porte de la ville, c'est le lieu où les choses de la ville sont décidées. Et c'est là qu'il les rassemble. Et maintenant, c'est vraiment une décision qui est prise. La décision, nous tous, tenons ferme, ayons toute confiance en Dieu, comptons sur l'aide qu'il nous donnera, et ensemble, non pas l'un et l'autre et les autres, non, rassemblés. C'est toujours très beau de voir quand le peuple de Dieu se rassemble, non pas parce que c'est une force. Plusieurs, beaucoup, c'est plus de force, mais ici, c'est une question de la confiance générale que Dieu aidera. Et ce que je trouve encore en dernier point, il y a différents points donc, que nous trouvons là, et il parla à leur cœur. Alors ça, c'est aussi quelque chose de un peu rare. Un peu rare. De quel roi est-ce que nous lisons qu'il a parlé au cœur du peuple? Moi, je trouve ça très beau. Il leur parlait au cœur. Directement là. Et ils ont compris. Et chers amis, ici, Ézéchias montre quelque chose que nous trouvons chez le Seigneur. Le Seigneur fait exactement ça. Ici, même Ézéchias, ce roi, devient une certaine image, je vais être prudent, mais vous comprenez quand même, une certaine image du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous rassemble aussi. Pourquoi? Pour parler à notre cœur. Exactement ça, c'est ce qu'il fait ici, ce roi. Parle à leur cœur. Et c'est qu'il dit Fortifiez-vous et soyez fermes. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi de Syrie et à cause de toute la multitude qui est avec lui. » Et maintenant encore, il leur donne encore une explication, une raison. « Car avec nous, il y a plus qu'avec eux. Nous sommes peu, ils sont énormément, une grande foule, là, les ennemis. Mais ils sont quand même, nous sommes plus. Pourquoi ?» Et alors il le dit aussi, « Avec lui est un bras de chair. » Un bras de chair. Et qu'est-ce que la chair ?« Mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu. » Voilà la grande différence. Et chers amis, c'est exactement ça. Le monde peut peut-être nous assaillir. Oui. Le monde peut être tellement contre nous. Et je pense aussi à des frères et sœurs que nous ne connaissons malheureusement pas parce que nous ne pouvons pas y aller, et eux non plus ici, dans certains pays où ce n'est pas possible. Mais qui savent quand même et mettent leur confiance dans le fait que Dieu est au-dessus. Même au-dessus de ceux qui sont des dictateurs et des tyrans qui veulent faire du mal contre le peuple de Dieu, qui poursuivent, persécutent surtout les chrétiens. Dieu est plus élevé, plus haut. Nous sommes peu, mais nous avons Dieu à notre côté. Voilà ce qu'il leur dit. Mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos combats. Voilà exactement ce que nous avons aussi vu hier. Le combat, c'est le combat de l'Éternel. Et combien de fois le peuple de Dieu a vécu cela? Déjà, tout à fait au début, Dieu leur donne déjà l'exemple de ce qu'il va faire. Nous connaissons ce passage où le peuple est en crainte de pouvoir traverser la mer Rouge, cette mer où, derrière les ennemis, des deux côtés, des montagnes et des hauteurs, le peuple ne pouvait pas s'évader, et devant eux, l'eau. Alors, regardez et voyez le salut, comment est-ce que dit exactement ? La délivrance que Dieu vous donnera. Vous allez être tranquille. Dieu combattra pour vous. C'est une expérience que le peuple a pu faire tout à fait au début qu'ils étaient sortis d'Égypte, au début d'être vraiment le peuple que Dieu prend pour lui, pour l'amener dans le pays qu'il a prévu pour eux et qu'il voulait posséder dans le peuple. Dieu voulait posséder ce pays-là, chasser les démons qui y étaient, faire habiter son peuple-là. Et dans le peuple, Dieu a pris possession de ce pays. Voilà, et tout à fait au début, il leur montre... Je suis là, et je fais le combat pour vous. Vous pouvez être tranquille. La même chose ici, et ce que nous trouvons ici, c'est le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. C'est pour ça aussi que j'ai dit un peu, nous devons et pouvons penser en Ézéchias aussi au Seigneur Jésus. Nous nous appuyons sur sa parole. Quand il nous dit « N'aie pas peur, je suis là ». Aussi dans les difficultés que vous avez peut-être des difficultés personnelles, en famille, en assemblée, je suis là. Confiez-vous en moi, appuyez-vous sur ce que je vous ai dit, sur ma parole. Dans le livre, dans l'Exode, nous voyons que le peuple, quand il entend de ça, déjà avant que Dieu et combattu pour eux, le peuple a compris et adora. Et adora. Nous trouvons ici pas le mot adoration, mais c'est une pleine confiance. Dieu va le faire. Et il a fait. Il a combattu pour le peuple. Nous n'avons pas lu ça, mais nous savons peut-être, parce que nous avons déjà lu à la maison ces chapitres, Dieu les aidera et le roi d'Assyrie est parti sans que le peuple aurait dû combattre. Tout était dans la main de Dieu. Dieu a tout fait pour eux et a aussi exactement accompli exactement ce qu'il avait dit dans sa réponse au à Ézéchias et par le prophète Ésaïe. Exactement. Aussi quant au roi Zankerib personnellement et quant au Rabzaké personnellement. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, il l'accomplit. Soyons tout à fait certains. Et il est du côté de celui qui est pour lui, qui est avec lui, qui est fidèle. C'est pour ça que nous avons vu au début ce mot-là, la fidélité. Soyons fidèles. Nous avons un Dieu qui alors répondra aussi avec une fidélité divine aussi pour nous aider, soutenir et nous rafraîchir et nous bénir et nous rendre ceux qui vraiment honorent Dieu par la confiance, par une pleine fidélité et auquel il donnera d'ailleurs encore une récompense. Quel Dieu que notre Dieu, notre Seigneur.
203, la première strophe.
Pourquoi